Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, le son a l'air ok ce matin, c'est fou, nous sommes, c'est incroyable, le mercredi 17 février, il est 8h30 et avec moi Corto, salut Corto.
Bien le bonjour mon Ben.
Ah là là, tu n'es pas dans une bulle mais c'est incroyable,
un
technicien et ça change tout, c'est quand même fou la vie. Allez, au programme de cette matinale des choses sérieuses, dans un instant Ali va nous rejoindre. Qui ne connaît pas Ali dans le coin, il est menacé d'expulsion, il viendra nous parler de son parcours, de ce qu'il se passe pour lui en ce moment, voilà, ce sera juste après l'édito. Et en deuxième partie, c'est Baptiste qui nous rejoindra, il a avec Martin fait une vidéo et recueilli les témoignages d'Ali et de la famille Caldani, on en discute. Mais il est étudiant aussi et nous parlerons de sa situation et de Ponte et Prod, sa structure avec laquelle il fait avec ses potes des vidéos. Ce sera tout à l'heure. À la programmation, c'est Lila qui s'y colle ce matin, sauf pour le dernier morceau. Et oui, hommage à Tonton David qui est décédé hier. Voilà, qui ne se souvient pas d'un Indien dans la ville et de chacun sa route, chacun son chemin. Sans transition aucune, mon corto, on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Ouais, et ouais mon Corto, il y a un générique édito, c'est complètement fou. Allez, l'ombre planait depuis septembre lorsque le budget 2021 de l'éducation nationale a été rendu public avec la suppression de 1883 postes dans le secondaire. Mais depuis deux semaines, collèges et lycées reçoivent ce qu'on appelle leur dotation horaire globale, soit le nombre d'heures d'enseignants dont disposera chaque discipline. Et là, tous les établissements connaissent une forte diminution des moyens, que ce soit des suppressions de postes, une hausse des effectifs en classe ou une baisse de l'offre d'options et spécialités. C'est ce qu'indique Sophie Venetite, secrétaire générale adjointe du syndicat SNES FSU, premier syndicat dans le secondaire. Depuis plusieurs années, l'enseignement secondaire perd des postes, dont environ 5000 emplois supprimés dans les collèges et lycées depuis la rentrée 2018, malgré 30 000 élèves en plus chaque année. Concrètement, avec cette baisse de la dotation horaire globale, ce sont par exemple 53 postes en moins dans les collèges et lycées de la Manche, 35 dans l'Aveyron, 54 dans le Puy-de-Dôme, 60 dans l'Académie d'Aix et Marseille, j'en passe et des meilleurs. Les heures d'enseignement représentent des postes mais aussi les modalités d'accompagnement des élèves, traduit Nicolas Anoto, délégué national collège-lycée du syndicat SA-UNSA. C'est impossible avec 30 élèves de faire des débats en éducation morale et civique, d'utiliser les laboratoires de sciences, d'avoir des petits groupes en langue. Ces heures sont donc supprimées faute de dotation supplémentaire. Des classes fermes, d'autres sont en sureffectif. Ce sont des options et des spécialités qui ont été supprimées, des travaux pratiques qui n'auront pas lieu, des heures d'accompagnement d'élèves en difficulté qui ne pourront pas être assurées. Allez, bonne rentrée 2021, les profs et les collégiens et les lycéens, et avec le sourire bien sûr, mais sous le masque, évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant avec Ali pour parler d'une situation tragique qui est vraiment très très grave. D'ailleurs, félicitations à tout le monde pour votre mobilisation à Florac et à Mende cette dernière semaine. On écoute d'abord Les yeux de la tête, le morceau s'appelle Les amoureux des vents publics.
Ça fait 2 heures que je poirote en bas de chez toi, 2 heures que je sonne, vas-y ouvre-moi à peine, 3 heures que je te connais et tu m'as déjà envoûté. Tu vas pas faire toute une histoire, regarde, j'ai ramené ma guitare, je te chanterai des chansons.
Mais il a pas fini, autre con.
Nous deux, je croyais que c'était pour la vie, on avait tant d'affinités, c'est pour ça qu'au bout d'une heure et demie je t'ai demandé de m'épouser. Mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez patron,
allez jeune vieux,
à notre demi. Je crois que ce soir, je me suis planté.
Ça fait maintenant 12 heures que je suis seul dans mon valeur. 12 heures que je me morfonds, mais putain, qu'est-ce que je suis con. Toi que je t'aimais trop, hier soir dans ton bistrot, je te connaissais depuis 5 minutes, mais vraiment t'avais pas l'air d'une idiote. On a parlé de philosophie, de Socrate, ah Yves Bourzy, tu m'as fait rire, je me sentais bien. C'est pour ça que je t'ai demandé ta main, mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez, malheur, je me suis encore planté. Ça fait un mois et demi que je te cherche dans tout Paris. J'ai fait toutes les stations de métro, de place et fête à Boussicot. On s'est croisés pas loin de Barbès, tu promenais tes jolies tresses. J'ai eu du mal à t'attraper, mais quand je t'ai eu, je t'ai pas lâché.
On a parlé littérature, de Baudelaire à Balladur. En une heure j'étais comme un fou, c'est pour ça que je me suis mis à genoux.
Et c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez patron,
allez patron,
à le demi. Je crois que ce soir, on s'est planté.
Je parle anglais. Oh please, 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 that's all I want to say. Michel, ma belle, je t'aime. On sera heureux jusqu'au bout du monde. Aïe.
Nous sommes ce matin avec Ali, bonjour.
Bonjour.
Ah, qui ne te connaît pas ici à Florac? Qui ne te connaît pas? Tu es, au même titre que 17 personnes, et c'est tragique, menacé d'une obligation de quitter le territoire français.
Oui.
Ma première question est assez simple, assez simple. Comment ça va, Ali?
Ça va.
Pas trop dur?
Bah oui, j'essaie de faire mieux, quoi. Bon, c'est pas facile.
Est-ce que tu sais où en est la procédure à l'heure où on parle?
Pour le ça, non, j'ai pas de nouvelles du tout. J'attends.
Ouais. L'attente, c'est dur.
Ouais, c'est trop dur.
Que les auditeurs et auditrices te connaissent un peu mieux pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu viens du Mali. C'est quoi ton parcours?
Bah, mon parcours, je suis parti du Mali en 2017. J'ai arrivé en France en 2018. Je suis venu tomber directement à Lausanne. Voilà, j'étais accueilli par Lausanne et tout. Donc ça fait 3 ans que je suis là, je suis à Lausanne.
Sachant que t'es passé par l'Espagne aussi, t'as pas pu rester pour c'est pour les mêmes raisons qu'en France, ou qu'est-ce qui s'est passé en Espagne?
Bah, en Espagne, j'ai pas pu rester parce que c'était trop dur pour moi, parce que je comprends pas l'espagnol. Et du coup, moi, j'ai préféré d'être en France, parce que j'ai choisi la France.
Alors, est-ce que c'est en France que tu voulais t'installer, ou alors t'as pensé aussi à l'Angleterre ou à l'Allemagne ou à un autre pays?
Non, moi, c'est la France que j'ai choisi pour m'installer, parce que la France, c'est une rêve. Enfin, moi, voilà, j'aimerais bien être en France, quoi. Voilà, dans tous les pays de l'Europe.
Quelles images t'en avais quand t'étais au Mali de la France?
Bah, les images que j'avais, j'ai trouvé en France, c'est un pays très, très bel et très joli, et que les gens ils sont sympas. J'espère qu'il y ait le bonheur, quoi, enfin, en gros, quoi.
On te le souhaite, c'est sûr. Comment t'es arrivé ici en Lozère? Tu disais que t'es arrivé directement en Lozère, mais pourquoi pas Paris ou Marseille?
Quand je suis parti de l'Espagne, j'ai pris du bus pour venir en France. D'ailleurs, j'ai passé par Bordeaux, j'ai dormi à la gare. À Bordeaux, j'ai dormi à la gare. Après, le lendemain, j'ai monté dans le train. Donc, le train m'a amené à Nîmes. Ben, je ne savais pas toujours. J'ai posé les questions aux gens. Ils me disent, vous êtes à Nîmes, vous êtes perdu, vous allez où? Je ne sais pas, quoi. Après, j'ai dormi à Nîmes. Il faisait froid. J'avais faim. Je n'ai rien mangé. Ils n'avaient rien du tout. Après, le lendemain, j'ai continué à monter le train, tu vois. Et après, le train m'a amené à Bastille. À Bastille, à la Terminus, quoi. Bah, la Terminus, si c'est pas où y aller, en fait, il y, y avait un gars qui est venu avec la bis et avec leur navette. Donc, il m'a vu que je suis à la gare, là. J'ai en train de m'allonger, je suis fatigué, voilà, tu vois, il faisait froid. Et j'avais faim, je n'ai pas mangé du tout. Il m'a posé des questions, il m'a dit « Qu'est-ce qui vous fait là, monsieur ?» Bah, j'ai dit « Je suis perdu, je ne sais pas où je suis venu. » Bah, il m'a dit « Ici, c'est le terminus, il faut… » Voilà. J'ai dit « Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. » Après lui, il m'a proposé de monter à navette pour qu'il m'amène en ville. Bah, directement, lui, il m'a amené à Mende. Bah, je ne savais toujours pas que c'était à Mende. Vous voyez. Et voilà.
Donc, tu arrives à Mende, il faut dire aussi que, à part cette personne, personne ne t'aide. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas comment fonctionnent les institutions, etc. Tu ne sais rien.
Non, je ne sais rien.
On ne peut pas se rendre vraiment compte de ça. Oui. Et puis donc, tu arrives à Mende, et puis tout doucement, ici à Florac.
Ouais,
là, la vie te plaît.
Ouais.
Et tu commences à faire pas mal de choses.
Et voilà.
Tu fais quoi ici à Florac ?
À Florac, je fais pas mal de choses. Je fais partie de plusieurs des associations dans le département d'Auxerre. Tout d'abord, j'ai été accueilli par Quad 9. Association Quad 9 qui m'ont hébergé et tout. Et du coup, depuis ces 3 ans-là, que je suis hébergé par Quad 9, là, et du coup, je fais que les bénévoles. Je suis bénévole partout dans tout le département de Lozère, quoi, en 48 hectares. En fait, je fais bénévolat des Restos du Cœur et bénévolat Secours Populaire Français. Et bénévolat à Secours Catholique. Je suis bénévolat aussi au Foyer Rural, qui donne des cours de danse africaine, avec la danse moderne afro et coupé décalé. Ensuite, j'ai fait partie des artistes des 48 hectares à Lozère. Voilà. En fait, je suis bénévolat aussi des Tours du Monde à Sanac. Et je fais partie des Batucada du département Lozère, celle que le Petit Caillou à Kézac, le CKFD à Mende, et Batucada à Vialence, et Batucada à Marvezol.
Quand même.
Et voilà.
Et tu animes aussi une émission qui s'appelle Africa Music sur Radio Barthes.
Et voilà, exactement.
La prochaine, voilà. C'est mercredi soir. Oui, donc on fait beaucoup de choses. Alors, évidemment, il y a des procédures qui sont en cours, etc. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit, en fait ? Qu'est-ce que la préfecture te dit, les tribunaux, le juge ? Qu'est-ce qu'on te dit, en fait ?
Bah, en fait, moi, depuis que je suis arrivé à Florac, que je suis bénévole, mais comme j'avais pas de dossier... Et du coup, j'ai monté à mon dossier petit à petit au niveau de, tu vois, des bénévolats et tout, partout. Mmh. Et que, après que je suis connu dans le département, tu vois, j'aide les gens volontairement et tout. Après, j'ai construit mon dossier. Après, j'ai trouvé un patron qui, après, t'a embauché.
C'est ça, t'as une promesse d'embauche.
Voilà, une promesse d'embauche. Voilà. Après, j'ai eu ces promesses d'embauche. En CDI dans les bâtiments, quoi, l'entreprise des bâtiments, quoi, en CDI, quoi. Et du coup, je dois commencer au premier marche. C'est mon
dans 15 jours, quoi.
Dans 15 jours, quoi. Voilà, je dois commencer au travail le 1er mars. Et du coup, j'attends toujours la décision du. Et madame la préfète, voilà.
Oui, parce qu'il faut dire que si jamais t'as pas de papier, c'est raté. Tu peux pas commencer à bosser, ton patron non, t'engage non. pas. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. On n'arrive pas à comprendre.
Voilà, tout à fait.
Et puis, t'as d'autres projets aussi.
Et oui, j'ai beaucoup de projets ici, dans ce département Lozère, comme je t'avais dit. Le premier moment, j'ai une compagnon. Qu'on a vraiment un avenir ensemble, voilà. J'ai un compagnon, donc ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc on a vraiment un gros projet d'avenir avec elle. Et moi, parce qu'à Lozère ici, j'ai tout ce qu'ils font. Je suis très bien ici. Je me sens bien ici parce que tout le monde m'y connaît, je connais tout le monde. On partage des choses ensemble. On fait plein d'activités ensemble. Et donc avec elle, elle aussi, elle est tout pour moi. Je suis prête à tout donner pour elle.
Il y a un peu de positif aussi quand même. Il y a eu des beaux élans de solidarité là depuis quelques semaines. Est-ce que ça te fait chaud au cœur de voir tout ça?
Et oui, vraiment, quand j'ai vu autant de monde comme ça, vraiment, ça m'a touché au cœur. Autant de monde comme ça autour de nous, de nous soutenir, vraiment, ça m'a touché du cœur. Ben, je tiens à remercier à tout le monde qui sont déplacés, de nous soutenir, même ceux qui ne sont pas pu déplacer. Vraiment, je remercie tout le monde.
C'est sûr. Alors, la question peut paraître bateau, mais est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu as confiance?
Et oui, j'ai confiance. J'ai confiance. J'espère.
Sans ça, tu t'en sors pas, quoi.
Oui, j'espère. Parce que, voilà, j'espère que ça va aboutir, quoi. Voilà, donc...
Est-ce que tu as déjà imaginé que la réponse puisse être négative?
Non. J'imagine pas, mais voilà, mais j'espère toujours positif, mais voilà, je prends toujours les côtés positifs, quoi, en gros, quoi. Bon, voilà. C'est ça que je mérite, quoi.
En tout cas, vivre dans la peur n'est pas une vie. Bon courage, Ali.
Ouais, merci.
Croisons les doigts pour que cette histoire finisse bien. Sachez qu'une pétition auditeur-auditrice circule dans la région. N'hésitez pas à la signer. Merci, Ali. Dans un instant, nous serons avec Baptiste qui a fait une vidéo sur toi et sur la famille Caldani.
Oui.
Merci beaucoup, Ali, et bon courage pour la suite. Ça va le faire, on en est sûr. Ciao. Okay.
Ciao.
Donc dans un instant, comme je disais, Baptiste va nous rejoindre en studio. On écoute d'abord Marc Perron, le morceau s'appelle Esperanza. La programmation musicale, c'est Lila qui m'a demandé de faire une petite dédicace à Olivier, notre ami Olive, puisque c'est peut-être l'un des seuls morceaux qu'il connaît à l'accordéon. Et je peux vous dire qu'en été, quand on passe 10 jours avec Olivier qui joue toujours dans le même morceau, c'est un truc de fou. Allez, ça rentre dans la tête, c'est Marc Perron, le morceau s'appelle Esperanza. A rejoint en plateau Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Tu es avec Martin, le réalisateur de la vidéo relayée par Télédrive sur la famille Caldani et Al-Kaba Ali. menacé d'OQTF. Vous avez aussi créé Ponte et Prod. On va parler de tout ça. Déjà, dès que vous avez appris que la famille, d'abord, puis Ali, puis 17 personnes étaient menacées d'OQTF, c'était pour vous comme une évidence d'utiliser vos moyens et d'aller à leur rencontre?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, au début, je connaissais la famille Caldani parce que c'est les voisins de mes grands-parents et j'avais déjà mangé avec eux auparavant. Et puis, c'est après que j'ai appris qu'ils étaient menacés d'expulsion. J'étais pas du tout au courant. Du coup, ouais, c'est très choquant quand on connaît vraiment les personnes directement, de savoir que, bah, ouais, elles peuvent être expulsées. Ça fait très bizarre. Et sur le moment, ça paraissait assez, ouais, évident d'utiliser la vidéo. Mais c'est vrai que, genre, moi, j'avais d'autres projets. Je vais repartir ailleurs, je vais repartir à Lozère et tout. Et du coup, après, dès que j'ai pu revenir, qu'il y avait encore la mobilisation, là, avec Martin, on s'est vu, on s'est dit, bah ouais, faut vraiment qu'on fasse ça. On a contacté Al-Kaldani et Al-Kaba et on allait les rencontrer, voilà. Et après, on a essayé de faire ça assez rapidement pour. Du coup, on aurait pu prendre plus de temps et que ça soit un peu mieux fait, mais l'idée c'était de le faire avant la manifestation là, qu'il y a eu samedi, dans l'idée que ça puisse donner envie à des gens de venir, de se mobiliser, etc., pour essayer qu'il y ait plus de monde, ouais, qui vienne, quoi.
On va en parler de cette mobilisation assez extraordinaire. Est-ce que l'idée aussi, et c'est pas péjoratif pour eux, mais bien pour l'administration française, de les humaniser, que ce soit un peu autre chose qu'un numéro de dossier?
Ouais, complètement, c'est ça. Bah, en fait, l'idée, c'est de montrer que souvent, là, on reçoit un peu, ouais, des pétitions, des articles, on comprend, genre, mais pour vraiment créer de l'empathie, de l'émotion, il faut montrer qu'il y a des gens derrière, que ces gens, ils ont une vie, qu'ils ont voilà, c'est des humains, quoi, que c'est pas juste des numéros, des noms, des, parce que je pense que c'est ça le réel problème dans notre système actuel, c'est que on est dans une sorte de bureaucratie gigantesque où les gens qui ont pris la décision de les expulser les ont sûrement jamais vus, en fait, ils savent même pas qui ils sont, genre, du coup c'est voilà, c'est inhumain, quoi, c'est et forcément ça conduit à des choses, à ce genre de choses, parce qu'on y a plus aucune empathie, plus aucun ouais, c'est un peu terrifiant, quoi.
Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors évidemment, tu connaissais Caldani, tu l'as dit tout à l'heure, mais quand vous êtes arrivé avec les caméras, comment ça s'est passé? Quel feeling t'as eu? Et eux aussi, est-ce qu'ils étaient stressés? Est-ce que c'était émouvant? Comment ça s'est passé?
Bah, ça va, ouais, c'était un peu... y a, en fait, la famille Caldani, il y a Eriola et Drilon. Et c'est vrai que Drilon est plus habitué à parler en public. Il a déjà fait un peu des différents médias, etc. Et il est assez à l'aise. Du coup, voilà, il était un peu assez rodé. Bon, on a un peu discuté avant de faire le truc. Il voulait un peu savoir, bah, forcément, quelles questions on allait leur poser avant pour se sentir à l'aise, quoi. Et l'idée, c'était vraiment, en fait, de les lancer un peu sur une question un peu générale. Et qu'après, ils se sentent à l'aise de développer sans qu'on les reprenne tout le temps. Voilà, l'idée, c'était un peu ça. Et avec Eriola, qui parle un petit peu moins bien français et qui est un peu moins habitué à ce genre de choses, on s'est repris à plusieurs fois avant d'arriver à une prise, on va dire, qui marchait bien, quoi. Mais voilà, en fait, on a pris notre temps. C'est ça qui a fait que ça a bien marché, quoi. On a, pareil avec Al-Kaba, on s'est posé tranquillement. Et je pense que, bon, ça va, on a réussi à faire qu'ils n'étaient pas trop stressés. On a essayé d'enlever un peu de la pression en leur disant que de toute façon, on pouvait refaire les choses plusieurs fois, qu'on allait faire du montage après, qu'il n'y avait pas de stress à avoir, quoi. Et puis j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché parce que ce qu'ils disent, voilà, ça touche, je pense. Ça touche à des choses assez, assez sensibles quand on arrive, je pense, à comprendre leur situation, quoi.
Ouais, parce que ce qu'il y a de dingue, c'est qu'ils ont des projets, qu'ils ont leur vie, qu'ils ont plein de choses à faire. Les intentions sont floues après. 3 ans passés en Lozère, tout d'un coup, comme ça, la préfecture ou le tribunal administratif décide que, en pleine crise sanitaire en plus, que telle personne n'a plus le droit de vivre alors qu'il y a des projets, c'est fou.
C'est ça, ouais, vraiment, moi je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué. C'est encore, c'est Al-Kaba là, quand on l'a interviewé, et on a dû couper parce que c'était trop long, mais il nous racontait toutes les choses dans lesquelles il était engagé en Lozère. Genre, j'ai jamais rencontré un Lozérien qui était engagé dans autant de choses, autant d'associations, autant de projets, etc. Et la préfecture, dans un des prétextes pour l'expulsion, lui dit qu'il n'est pas intégré dans la vie sociale de la Lozère, qu'il n'est pas intégré, qu'il connaît personne, qu'il n'a pas de, ouais, qu'il a pas de projet d'avenir, etc. Genre, ça semble vraiment absurde. Et bon, c'est, voilà, c'est le problème actuel.
Vous avez fait un truc génial au début de votre vidéo. vous faites un point et vous rappelez, c'est important, que tout ce qui est dit sur la migration est faux, que depuis des années, les populations en déplacement représentent environ 3,3% de la population mondiale, que la France est loin dans le nombre des personnes qu'elle accueille hein, par rapport à d'autres pays. Les clichés ont la dent dure quand même.
Ouais, carrément. Bah, en fait, on a repris des chiffres de la CIMAD, du coup c'est une association au niveau national qui fait un travail depuis plusieurs décennies, un bon travail de, à la fois d'accueil des réfugiés, de lien avec eux et aussi d'essayer de produire des contenus pour sortir un peu des préjugés, des clichés qu'il peut y avoir. Du coup on a appris un peu des chiffres sur ça et c'est vrai que ouais, l'idée c'était de recontextualiser en fait, du coup qu'il y ait leur parole, la parole des gens directement, mais qu'elle soit placée dans un contexte qui soit enlevé un peu, voilà, des sortes de clichés super anxiogènes qu'on peut avoir, des discours un peu tout le temps répétés de voilà, une invasion, il y a un grand remplacement, etc., des choses complètement absurdes où on voit que bon, en fait non, c'est pas ça le vrai problème, c'est qu'il y a une crise de l'accueil, quoi. Les politiques au niveau France, mais au niveau même Europe, dans d'autres pays, gèrent pas cette chose assez bien, mais après il n'y a pas une crise migratoire. Et en fait, même qu'est-ce que ça voudrait dire une crise migratoire, genre pourquoi il y en aurait des gens qui seraient plus légitimes que d'autres à être français, à être européen, genre ça veut dire quoi être une nation, est-ce qu'on n'est pas tous étrangers, genre c'est plein de questions un peu philosophiques à se dire pourquoi, voilà. Alors en soi, on a tous des grands-parents ou des parents d'origine étrangère et bah, faudrait peut-être redéfinir ces concepts et se dire qu'est-ce qui nous unit autre que des nationalités, quoi. C'est un concept un peu absurde.
Et tu le dis aussi, quand on parle de clichés, les gros médias et des polémistes, hein, dont je tairai le nom ici pour ne pas salir les micros de Radio Bartas, mais sur les médias ont droit de citer et balancent des absurdités. Tu parlais de grand remplacement tout à l'heure, c'est quand même complètement fou. Mais... ça relaye un peu ces clichés.
Ouais, carrément. Bah ouais, on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi ces gens-là sont autant exposés médiatiquement, ont un droit de parole on comprend pas exactement la logique qui est derrière tout ça et même on le voit actuellement avec le gouvernement actuel qui fait complètement le jeu de l'extrême droite. On comprend pas, genre avec voilà, par exemple le débat à Marine Le Pen Darmanin où ça semble complètement absurde, où ils sont tous les deux en train de se dire oui bon bah on va gagner la présidentielle, genre c'est super spécial et je pense qu'on le verra d'ici quelques années. Qu'est-ce que ça suit comme logique tout ça? Et ça fait peur, je pense, ça fait peur. C'est pour ça que c'est important dès maintenant de rappeler des choses assez fondamentales comme le fait que la solidarité, c'est pas juste un mot en l'air, c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut concrétiser, que voilà, qu'il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, qu'il faut tous s'unir et que. Faut aller à l'encontre des sortes de réflexes de la peur qu'il peut y avoir.
La transition est toute trouvée. C'est touchant quand même de voir qu'il y a eu cet élan de solidarité qui s'est créé autour d'eux. Élan de solidarité d'ailleurs qui existait déjà bel et bien en Lozère. Est-ce que tu penses que ça peut faire pencher la balance du bon côté?
Au niveau pour
les décisions.
Pour les décisions d'exclusion. Je sais pas, moi avant d'avoir un peu le discours de RESF, j'étais plutôt dans l'optique de c'est bien là de ce qu'on fait, mais ça va peut-être pas suffire et faudrait trouver peut-être d'autres modes d'action pour arriver à faire pencher la balance. Après, ce que dit RESF, c'est que sur la majorité des migrants qu'ils ont accompagnés, finalement il y en a très peu qui sont fait expulser et les décisions ont été là c'est maintenant c'est le tribunal administratif de Nîmes qui a la décision en main, c'est plus la préfecture. Du coup bon, peut-être que ça peut encore le faire. Et ouais, j'ai espoir que ça peut marcher. Après, c'est vrai que des fois, on se demande comment faire pour que la préfecture nous entende, que les puissances soient dérangées, quoi. Est-ce que vraiment une manifestation, ça les dérange? Je sais pas. Je pense que ça a des bons effets et ça montre que... En tout cas, je sais que sur les personnes... menacer là d'expulsion, c'est sûr que ça a de l'effet, et je pense que c'est ça déjà qui est important. Ce qu'il disait Drillon, voilà, c'est que jamais il y a eu 400 personnes qui se sont mobilisées pour lui, qui l'ont soutenu, etc. Et c'est déjà, je pense, ça remet en confiance, ça apaise le stress, parce que là, ils sont dans une situation mais tellement stressante, c'est ultra anxiogène, et de voir que voilà, il y a un bon soutien du local, c'est déjà super important, quoi.
Allez voir cette vidéo où Drillon parle. On a reçu Ali ici dans ce studio il y a quelques instants. temps. Voilà, allez voir cette vidéo. Je la mets en lien sur notre site dans un instant, même si à la fin, c'est vrai que vous parlez de la mobilisation qui a eu lieu à Mantes, où il y avait encore 400 personnes. On va parler d'un peu autre chose, qui est important aussi, hein, t'es étudiant.
Ouais.
Alors, bah, pour que les auditeurs, auditrices situent, tu étudies quoi et où ?
Alors, j'étudie la science sociale à Lyon. Du coup, c'est un peu toujours flou comme terme, science sociale, mais en gros, en première année, on a une sorte de filière, genre une filière, c'est comment dire, une première année où il y a plusieurs disciplines. On a de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie et de la science politique. Et après, dans les années après, on peut choisir dans quoi on veut se spécialiser. Mais voilà, du coup, c'est plutôt bien, ça permet d'avoir une vision un peu générale de ces disciplines sans se spécialiser au début dans une des quatre, quoi.
Lozère, Lyon, il y a quand même un mode de vie là, être en ville, ça doit pas être le paradis.
Ouais, non, c'était vraiment bizarre au début, les premiers jours, c'est surtout avec le coronavirus, ça fait que c'est vraiment pas très agréable de passer de tout l'été dehors dans la nature et tout, et d'arriver dans des trucs où, des vies où on passe 2 heures en commun, non, 2 heures en par jour dans les transports en commun, que on doit tout le temps se dire est-ce que je fais pas quelque chose de mal, ah mince mon masque, ah là là mince, tout le temps dans le stress un peu, dans l'anonymat aussi, on connaît personne, on est là, on est un peu perdu, c'est assez angoissant au début, la ville.
Ouais, et pour les études, comment ça se passe pour toi? C'est quoi ton quotidien?
Depuis le deuxième confinement, du coup, depuis début novembre, c'était ça. Nous, la fac avait été fermée, quoi. Alors, en fait, depuis le début, on avait déjà juste que la moitié des cours, quoi. En fait, depuis le début de l'année, pratiquement, c'est la moitié en distanciel, genre des cours qui changent toutes les semaines, etc. C'est très compliqué à se mettre vraiment dans un rythme. En fait, on pouvait pas se mettre dans un rythme, vu que ça change en permanence. Et là, du coup, il y a le confinement où tout est fermé. Du coup, moi, j'avais pas très envie de rester en ville pour finalement rester que dans un appart. Du coup, je suis parti de la ville. Et là, en fait, depuis, je suis pas retourné. Et du coup, je vagabonde un peu par-ci par-là. Et puis j'arrive quand même à suivre un petit peu en distanciel. Et voilà. Genre, moi, je sais que ça me va. Je pense que je suis pas le plus à plaindre parmi les étudiants. Et il y en a qui ont vraiment là des conditions vraiment dures parce qu'ils ont pas le choix. Moi, j'ai la chance d'avoir ce choix de pouvoir aller ailleurs, quoi. Il y a des gens qui sont dans leur appartement des cités Crous et qui sont dans des tout petits trucs, des trucs de 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, et qui sont arrivés dans une ville. C'est pour les gens qui sont en première année, ils n'ont pas eu le temps de vraiment sociabiliser avec des gens, ils connaissent pratiquement personne, et ils sont bloqués là, ils doivent bosser et puis ils ne peuvent pas sortir. Et voilà, je pense que c'est vraiment dur, quoi.
Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été mal gérées pendant cette crise, mais là, ça fait quelques semaines à peine qu'enfin on parle des étudiants qui sont laissés pour compte, des dépressions, des choses graves qui arrivent, hein, pensées au suicide, etc. Normalement, l'université ou peu importe, c'est censé être des belles années, quoi, le début de l'émancipation, de la liberté, etc. C'est quoi ton regard un peu là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression, vous en tant qu'étudiant, d'avoir été un peu laissé pour compte?
Ouais, c'est vrai que ça correspond pas du tout à l'image que je me faisais des études supérieures comme quelque chose où on rencontre plein de gens, on s'émancipe, on découvre plein de nouveaux modes de vie, plein de cultures, etc. Et ouais, c'est vrai que c'est possible que j'ai pas une vision super précise de ça, mais c'est vrai qu'on le débat sur les conditions de vie des étudiants est arrivé hyper tard, je pense, dans le débat public, et pendant longtemps on s'en souciait pas trop. Je pense que le gouvernement avait d'autres priorités, et c'est vrai que c'était pas... Ouais, maintenant c'est bien, je pense que c'est une bonne chose que ça arrive, parce que c'est vrai que ça concerne quand même une bonne partie de la population, et que c'est une période de la vie où on est en basculement, on passe de différentes choses, on est dans des processus, des transitions, etc., qui font que c'est pas facile, quoi, au niveau psychologique, d'être fort dans ces moments-là, quoi, et c'est important s'il y a un accompagnement, une prise en compte des difficultés, etc., que les gens peuvent avoir.
On pourrait parler de tes engagements, et ils sont multiples, et puis on l'entend quand tu parles aussi, hein, on a parlé évidemment des OQTF, etc. Sans parler de loi liberticide, dans un sens général, est-ce que tu penses qu'après cette crise sanitaire, on va pouvoir retrouver une vie normale? Ou alors est-ce que tu penses que les dégâts sont irréversibles?
Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui genre, je pense que rien n'est irréversible, on peut toujours revenir en arrière sur plein de choses, et pour ça il faut qu'il y ait de la mobilisation, il faut qu'il y ait de l'action, etc. C'est sûr qu'il y a des choses, ouais, le gouvernement, je pense on a bien profité pour différents points, et on est arrivé dans des sortes de modes de pensée à peut-être préférer sur certains points la sécurité à d'autres choses, et du coup ça va être aussi un travail sur nos valeurs, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut vivre dans des choses où oui, bah, tout est bien sécurisé, il n'y a aucun risque, mais finalement est-ce que c'est ça vivre, bon je sais pas. Et après sur le truc sur est-ce qu'on arrivera à retourner à une vie normale, je pense que la question c'est est-ce que la vie normale c'est ce qu'on veut. En fait, c'est un peu le problème de cette crise. C'est, je pense pas qu'on a envie de retourner à la normale. On a envie d'aller encore plus loin, en fait, d'aller au-delà de ça et de trouver de nouveaux acquis, quoi. Faut pas juste vouloir. Sinon, c'est un peu une sorte de truc de. On réagit au phénomène de réaction du gouvernement, genre. Faut qu'on propose en fait d'autres choses pour aller plus loin, quoi.
C'est ça, transition écologique, allons-y, faut foncer, prendre des vraies mesures contre le réchauffement climatique, on en passe et des meilleures. En tout cas, on sent quand même qu'il y a beaucoup de positif dans l'avenir. T'es quand même confiant.
Je sais pas, c'est toujours compliqué comme question. Est-ce qu'on a foi en l'avenir? Je pense que ça sert à rien d'être pessimiste, parce qu'en fait, c'est trop simple d'être pessimiste actuellement, et ça fait juste à se dire bon bah voilà, tant pis, on fait rien, et c'est un peu, ouais c'est ça, c'est une position un peu simple. Autant être optimiste et y aller à fond, quoi, y aller à fond, et tant pis ça marche pas, mais au moins on aura testé, quoi, on aura tenté.
Alors on va parler de choses un peu réjouissantes. Vous avez créé Ponte et Prod. Alors, Ponte et Prod, avec qui, pourquoi et comment? Allez, je vais tout pactage d'un coup, comme ça c'est
fait. Ok, ok. Du coup, bah, Ponte et Prod, ça fait un petit bout de temps que c'est créé maintenant. Et c'est vrai qu'il y a eu différentes périodes où on a un peu. En fait, c'est toujours fluctuant. Du coup, c'est pour contextualiser, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est un collectif en gros de gens qui aiment bien faire des vidéos. Et du coup, on met ça sur YouTube. Du coup, vous pouvez aller voir sur YouTube en tapant Ponte et Prod. Et du coup, il y a différents courts-métrages, il y a des courts-métrages, des petites vidéos, et voilà, il y a des moments où on en met plus ou moins, on a un peu des élans de faire plein de choses, et des moments de creux, et là, c'est vrai que bah, cette année, on se retrouve tous éparpillés un petit peu à différents endroits, il y en a encore qui sont au lycée, il y en a qui sont différentes villes, études supérieures, du coup, c'est plus complexe pour réussir à proposer du contenu audiovisuel. Mais là, en début d'année, on a un peu rassemblé tout plein de vidéos dites expérimentales.
J'allais t'en parler.
Voilà, c'est ça. et du coup, de choses qu'on avait faites, même il y a 2 ans, 1 an, notamment pour les cours d'art. Et du coup, on a un peu tout rassemblé ça, en essayant de mettre tout un peu d'un coup. Et voilà, et en fait, du coup, on a pratiquement mis tout un peu dans... à la suite les uns les autres.
Il y en a une douzaine, hein, c'est ça.
Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Et là, récemment, on a terminé, parce qu'il nous manquait encore 2 vidéos, et puis là, il y a la dernière vidéo qui sort d'ici 2 jours, et en fait, c'est un peu notre plus gros projet, quoi, actuellement. C'était une vidéo qu'on a tournée pendant le premier confinement, parce qu'on a fait on était en confinement collectif avec des amis, et du coup, on a tourné, voilà, une sorte de... on appelle ça un moyen-métrage, ça dure 40 minutes, et voilà, quoi. Ça plonge un peu dans le quotidien d'un confinement collectif.
Qui est la suite d'une vidéo que vous aviez mise pendant le premier confinement, ou ça le reprend aussi un peu, parce que j'avais vu cette vidéo
relayée
par Télédrive.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ouais, il y avait Télédrive, ils avaient demandé de faire une petite vidéo sur notre quotidien, tout ça et tout. Du coup, on avait un peu tourné des plans. Et là, ouais, ça reprend certaines choses, mais... alors je veux pas en dire plus, parce que ça pourrait
aller le voir.
C'est ça, faut aller le voir, mais ça explore un concept, quoi. Ça explore un concept, et ça essaie de questionner certaines choses, etc. Bon, voilà.
Alors, tu parlais du voyage expérimental, hein. J'ai pas tout regardé, c'est expérimental, c'est sûr. D'où partent les idées en général?
Globalement, en fait, depuis le début, je pense qu'on est dans une démarche de autodidacte en vidéo. On n'a jamais vraiment suivi d'option cinéma. Il n'y avait pas d'option cinéma dans le lycée où on était. Il y avait pas, on a fait un petit peu au collège des choses, mais dans une démarche de mettre en pratique, genre tester des choses et voir ce que ça donnait, quoi. Et du coup, toujours ouais, dans ce truc-là, à ce niveau réalisation, niveau montage, niveau acteur, etc. Voilà, expérimenter, et c'est comme ça qu'on arrivait à acquérir des nouveaux savoirs. Et du coup, ce truc expérimental, ça, c'est un peu depuis le début. Et après, je pense que ça a été renforcé avec le lycée, moi, puis Abel notamment. On a fait l'option art. Option art, puis après SP art. Et c'est vrai qu'on avait la possibilité de répondre au sujet par des vidéos, et pas uniquement par du dessin, par de la peinture, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup fait, moi, et c'est souvent des sujets très, voilà, très abstraits, un peu, voilà, ça peut amener à toutes sortes de choses, comme un sujet, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, ou l'art ne reproduit pas les choses, je sais plus exactement le sujet, mais bon, il y a différents sujets comme ça qui sont, voilà, on peut faire différentes choses. Il y avait un sujet, c'était passage, bon, et du coup, voilà, après ça, on réfléchit à ces sujets, on les fait, et puis là, on en avait pas mal, et on les avait jamais mis vraiment sur Ponte Pro en se disant, bon, ça correspond pas exactement à ce que c'est cette chaîne, normalement c'est plus sérieux, genre, ou, en fait, pas sérieux, mais un peu plus classique dans ce que c'est un court-métrage, et puis en fait, là, on a eu envie de tout mettre ça pour, voilà, pour montrer aussi autre chose, quoi, de ce qu'on faisait.
Et comment vous travaillez, c'est-à-dire storyboard, scénario, vous prenez des voix classiques ou bien ça fuse et puis bon, à la fin on verra ce que ça donne.
Bah ça dépend en fait de ce qu'on fait. Franchement, il n'y a pas un mode classique. Quand on veut bien faire les choses, bon, on essaye d'abord de faire un peu des brainstorming, de se donner plein d'idées et puis de voir vers quoi on veut aller. Et sinon, ça peut prendre des formats voilà, très borderline. Souvent, ce qui marche, en fait, c'est de ne pas trop se donner de cadre et en fait, sur le moment, tourner, expérimenter des choses. Et puis, et quand il y a un bon feeling entre la personne filmée, la personne qui filme, un peu peut-être d'autres gens à côté et tout, en fait, ça peut marcher tout seul, quoi. Ça peut marcher assez bien. Et après, on a aussi on a fait déjà 2 48 heures où là on essaie d'être un peu plus calé parce qu'on a un temps très réduit, du coup ouais, forcément on doit faire les choses bien. Et là ouais, on a un mode de fonctionnement un peu plus classique où on commence à partir tac tac, on fait fuser les idées, puis après une fois qu'on a une idée on la garde, on essaie de développer sur ça, une fois qu'on a ça tac, on détaille toutes les scènes à tourner, toutes les choses, on voit si ça marche, on fait tout ça, après ça part au montage tac tac, on tourne les choses qui nous manquent pour compléter ce qu'on n'avait pas, tout ça. Et voilà, ça c'est un peu notre façon de fonctionner.
Auditeurs, auditrices, allez voir les vidéos de Ponte Prod, je mets le lien dans un instant sur notre site. Je précise aussi que vous avez fait le montage vidéo d'une chanson des Derniers de Cordée qui s'appelle L'Amitié et pour laquelle on vous remercie chaleureusement. Elle est encore dispo sur YouTube. Merci beaucoup, Baptiste.
Merci.
Et votre vidéo pour soutenir la famille Caldani et Ali est disponible sur la chaîne YouTube de nos amis Télédry. Je mets le lien aussi sur notre site en espérant un heureux dénouement à ces histoires tragique. À bientôt, Baptiste.
Merci. Salut. Ciao.
Voilà, c'est presque la fin de cette matinale. Je remercie Lila qui était à la programmation musicale ce matin. Corto, est-ce que tu te souviens d'un Indien dans la ville ?
Bah évidemment, et la musique aussi, hein, t'inquiète pas.
Incroyable ce film qui a bercé toute une génération. L'adolescence, l'enfance, Mimicicu, c'était absolument incroyable. Avec ce morceau culte, Chacun sa route, Tonton David est mort hier. Petit hommage pour finir cette matinale. On se retrouve lundi, on parlera voyage, on va partir un peu en Australie, ça va faire du bien de s'évader un petit peu. Voilà, en attendant, merci à toutes et tous de nous suivre. À lundi, Wakatepe Baboon, ciao.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe un message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim.
Mais je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Mais je ne délire pas, mais je
que c'est très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne.
Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont le même que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin.